Sébastien Pla, donc sénateur de l'Aude, nous continuons ce radiobarque 14e avec eh bien une explication supplémentaire, parce que je pense que c'est tout à fait nécessaire. Alors, vous nous avez expliqué dans une première partie un processus, par exemple, proposition de loi, ça va devenir un projet, ça devient une loi, mais vous avez un rôle également de contrôle qui reste très très important, avec une possibilité notamment d'engager des commissions d'enquête pour comprendre et savoir.
Tout à fait, des missions d'information, des missions d'enquête, le grand volet dont on parle très peu, c'est celui-là. Le Sénat est une chambre qui travaille beaucoup dans le contrôle de l'action à la fois du gouvernement et dans le contrôle des notamment des grandes entreprises pour lesquelles l'État français est actionnaire. Donc régulièrement, nous sommes amenés à auditionner les ministres, à auditionner les chefs d'entreprise, à auditionner les organisations professionnelles pour tenter de comprendre les problèmes actuels et proposer des solutions. Donc quand les sujets sont très importants, comme celui par exemple actuellement de la crise énergétique, et de l'inflation autour du prix du gaz et de l'électricité, n'importe quel parti politique, mouvement politique, a droit chaque année à faire des propositions de commissions, de missions d'information, qui est proposée au bureau du Sénat, et le Sénat décide donc de mettre des moyens pour ouvrir une commission d'enquête.
Et combien de personnes donc, siègent ?
Un exemple, mardi dernier, j'étais nommé vice-président d'une mission d'information, d'une mission d'enquête autour des biocarburants. Biocarburants et de l'hydrogène vert. Donc c'est une commission composée d'une trentaine de membres, au prorata de chaque parti politique, du poids de chaque parti politique, avec une présidence qui est dévolue à un parti politique, une vice-présidence à un autre parti politique et un rapporteur à un troisième.
Il faut toujours que ça soit multiparti.
Voilà, j'insiste là-dessus, hein, non pas pour faire de la politique ou parler de la politique, c'est pour que vous compreniez très bien le fonctionnement de l'Assemblée parlementaire du Sénat, qui est une assemblée qui partage les tâches dans un souci de compromis, de discussion, d'échange pour trouver le meilleur compromis possible dans l'intérêt des Français. Donc cette commission d'enquête, ça demande des budgets, puisque derrière le travail qui est mené pendant 4-5 mois, c'est du travail d'audition, de visite de terrain, de rencontre d'entreprises, de partenaires, de syndicats, d'associations. Ensuite, on produit un rapport. Dans ce rapport, on fait l'état des lieux en fait de la situation et l'on sort des pistes d'amélioration, notamment sur les questions de biocarburant ou d'énergie. La question centrale, c'est la souveraineté énergétique de la France. Donc qu'est-ce qu'on fait de la filière des énergies renouvelables, qu'est-ce qu'on fait du nucléaire, qu'est-ce que l'on fait de l'hydrogène, est-ce qu'il y a des pistes intéressantes? Donc à partir de ce constat, on est en capacité soit de délivrer le constat et de le proposer au ministre, au gouvernement, au Premier ministre, soit d'aller plus loin et de le transformer en projet de loi pour orienter la politique de l'État français en direction du soutien à telle ou telle filière avec tel ou tel moyen.
Voilà. Et alors combien, grosso modo, il y a de personnes qui travaillent sur ce rapport, par exemple, pour l'élaborer ? Alors,
sur le rapport des élus, nous sommes une trentaine, aidés d'administrateurs du Sénat.
Donc le rapport, il va être issu du travail de cette trentaine de personnes.
De cette trentaine de personnes qui vont débattre ensemble, qui vont participer à des auditions où chacun posera les questions qu'il le souhaite. Et ce rapport sera rédigé par le rapporteur, relu par l'ensemble des participants, voté et ensuite présenté en commission. En l'occurrence, le mien en commission des affaires économiques.
Et dans le temps, ça dure combien, en moyenne ?
Ça dépend. Pour moi, c'est mon second. Le premier, c'était celui-là va durer grosso modo 6 mois, sachant que l'objectif serait de le sortir avant la fin du mois de juillet. La dernière mission d'information, c'était durant le Covid. Je participais à une mission d'enquête autour de l'impact justement du Covid, de l'impact économique dans les entreprises en France. Et ce qui a permis de sortir le plan de relance et les plans de soutien aux entreprises sont l'émanation des différentes discussions que nous avons eues dans ce rapport avec les opérateurs sociaux professionnels. Il a duré tout le temps du Covid, c'est-à-dire un an et demi. Moi, arrivé, on a lancé ce rapport au mois de mars, et on vient de le clôturer là au mois de janvier. puisque bon, aujourd'hui, tous les dispositifs ont été mis en œuvre. Et puis, durant le Covid, il a fallu ajuster les propositions et les dispositifs, donc revenir en discussion avec les partenaires. Donc, ça donc dépend de la thématique, en fait.
Mais c'est une machinerie qui est assez lourde.
Très lourde, c'est très chronophage. Ça demande énormément de temps. Le travail parlementaire, lui, est organisé généralement sur 3 jours, le mardi, le mercredi, le jeudi, avec des réunions de commission, avec des auditions, avec des séances.
C'est un peu la partie visible.
C'est la partie visible, tout à fait, avec des séances qui peuvent durer jusqu'à 2h du matin, ou 1h, où on discute des amendements, on amende des textes, on vote. Mais à côté de ça, ce dont on ne parle pas, c'est tout le travail, le back-office, j'allais dire, sur les missions d'information et les rapports parlementaires.
Oui, c'est la partie immergée de l'iceberg.
Tout à fait, et qui nous amène à nous déplacer sur le terrain, voire à l'étranger, voire recevoir au Sénat, faire des auditions pendant toute une journée. Et donc, c'est un travail qui est pas timé. Vous pouvez travailler le dimanche, vous pouvez travailler n'importe quel jour de la semaine, en plus du travail parlementaire. De l'agenda, en fait, du Sénat.
Oui, mais de la partie vie émergée.
C'est passionnant. Moi, ça me fait penser, quand j'étais étudiant à la fac, quand on travaillait sur des sujets concrets de terrain, quand on allait à la rencontre des acteurs de terrain, et derrière, on sortait un rapport.
Oui, parce que là, vous êtes en prise directe avec la société.
Tout à fait. C'est du concret, c'est pas de l'abstrait. Voilà, donc c'est vraiment un côté très, très passionnant et qui nous permet d'éclairer nos débats quand l'on arrive en séance pour travailler autour d'une loi. Bon, le fait d'avoir rencontré les organisations professionnelles, les personnes qui œuvrent dans le sujet,
ça vous a ouvert beaucoup d'horizons.
Exactement. Et puis de défendre des positions. Moi, c'est ma méthode déjà personnelle sur les projets de loi en général. Là, par exemple, sur la réforme des retraites, j'ai beaucoup échangé avec les syndicats en amont. Il y avait un texte sur les retraites agricoles. J'ai travaillé en amont avec les anciens exploitants du département. On avait un texte l'an dernier sur les risques d'inondation. Je travaillais avec le président du SMAR, les présidents des différents associations de gestion de bassins versants. Il y a une loi Matra sur les pompiers. J'ai travaillé avec la direction des pompiers.
Oui,
j'aime bien me nourrir en amont. Vraiment, alors, c'est très chronophage, mais c'est très intéressant.
Mais vous rencontrez énormément de gens et de compétences, et forcément.
Tout à fait.
Et alors, Sébastien Pla, alors quand on est sénateur national comme le député, mais on est aussi sénateur de son territoire, bien évidemment. D'ailleurs, vous avez été longtemps maire de Duyac-Perrepertuis, vous avez été conseiller départemental, je crois, enfin, au régional, etc. Bon. Vous avez parlé tout à l'heure de biocarburant et d'hydrogène vert. Alors ça nous amène sur un sujet qui, j'imagine, vous intéresse au premier chef. C'est quoi ? C'est un gazoduc, c'est un hydrogénoduc qui va partir de Barcelone pour aller à Marseille, mais qui passerait éventuellement par Port-la-Nouvelle, mais qui n'y passerait pas. Pouvez-vous nous rappeler un peu de quoi il s'agit et situer le problème ?
À l'origine, il était prévu un gazoduc de Barcelone à Port-la-Nouvelle et Marseille, passant en voie terrestre, passant par les Pyrénées, donc il y a 6-7 ans en arrière. Donc ce projet était...
s'appelait le MidCat, non ?
Le MidCat, voilà, tout à fait. C'était un projet d'interconnexion gazière entre la France et l'Espagne, puisque nous sommes interconnectés du côté de l'Aquitaine, mais pas du côté Languedoc. Et compte tenu des problématiques aujourd'hui d'approvisionnement énergétique au niveau européen par notamment le gaz russe, l'intérêt est de sécuriser en fait l'approvisionnement de l'ensemble des pays européens, en particulier l'Allemagne, à partir des productions venant notamment de l'Espagne et du Portugal.
Du sud alors,
du
non,
sud,
non plus de l'Est.
Et non de l'Est, voire des importations gazières venant des États-Unis et de pays du Maghreb. Il y a ça aussi là-dedans. Donc l'enjeu étant de ne plus dépendre en fait de la Russie. Hein. Voilà, il suffit qu'il y ait un problème géopolitique et c'est toute l'Europe qui tousse. Donc ce projet-là était intéressant, mais posait un certain nombre de problèmes sur l'environnement, un problème de coût, un problème d'acceptabilité. Donc il a été proposé lors d'un sommet franco-espagnol au mois d'octobre, un projet de connexion gazière appelé Barmar.
Mais à travers la mer.
À travers la mer, voilà, l'un des plus grands projets offshore, c'est-à-dire tirer un tuyau de gaz entre Barcelone et Marseille, pour faire simple. Sauf que ce projet-là n'a pas été étudié par les entreprises aujourd'hui qui ont en charge le transport gazier, n'a pas été étudié par la Direction générale de l'environnement, Donc c'est sorti du chapeau. C'était une proposition du président de la République à le président espagnol, qui nous a, nous, un peu surpris et heurtés. Moi, le premier, parce que je suis énormément engagé sur la question du port de Port-la-Nouvelle, qui est un outil d'avenir extraordinaire pour le département de l'Aude, mais plus au-delà, hein, pour l'ensemble de l'Occitanie, et là, sur lequel on a parié avec l'État. Hein.
C'est ça. Là, c'est plus un simple projet. On est vraiment dans la réalisation.
Nous sommes en avance sur d'autres régions de France dans le développement des énergies vertes, des énergies renouvelables, et notamment de l'hydrogène vert. Il va être construit un électrolyseur à Port-la-Nouvelle qui va permettre de transformer, de faire de l'énergie éolienne offshore, du surplus, de l'hydrogène vert qui permettra de faire rouler nos bus, nos cars pour les mobilités au niveau régional.
Oui, c'est amené à se développer. Vert, précisons que ça veut dire, quand on le qualifie de vert, c'est l'hydrogène qui est produit sans bilan carbone.
Sans bilan carbone, voilà, avec un bilan carbone nul. En fait, c'est de l'énergie éolienne mélangée avec de l'eau. On casse l'atome, on sépare le haut. Et ça permet de créer de l'hydrogène. Et l'ensemble aujourd'hui des constructeurs automobiles, de l'aviation, notamment Airbus, développent l'hydrogène pour comme futur
moteur
et combustible. Donc il y a un avenir énorme chez nous qui va se jouer ici, avec des emplois à la clé, sur un nouvel écosystème économique, un nouveau paradigme de consommation, plus respectueux de l'environnement et générateur de richesses et d'emplois. Donc on est quand même dans le vrai des problèmes que l'on rencontre aujourd'hui. Mais bon, la question, c'est de savoir, lorsque vous produisez de l'hydrogène, vous l'évacuez par où et par quel tuyau. Bon, alors, en interne, au niveau, le projet de Port-la-Nouvelle est prévu de transporter de l'hydrogène par camion. Donc, bilan carbone n'est pas terrible. Oui, donc, il faut créer les infrastructures. Sachant que nous avons un outil de compression à Barbera, une centrale gazière
importante. Près de Carcassonne, quand même, voilà. Proche d'ici.
Donc, l'intérêt, c'était de connecter Barcelone à Barbera et du coup de se connecter à ce nouveau gazoduc qui, depuis 2 ou 3 mois, depuis les dernières discussions, ne transportera plus de gaz, mais de l'hydrogène. Sera formaté que pour transporter de l'hydrogène.
Non, d'où le nom d'hydrogène. Pour vous, il est indispensable qu'il passe par la Nouvelle,
Pour moi, c'est comme si vous construisez la ligne à grande vitesse et vous ne construisez pas la gare de Montredon. C'est la même chose. Là, on va construire...
Oui, c'était assez absurde, finalement. Oui,
on va construire les rails pour y mettre les trains dessus, là. Donc, ce sera l'hydrogène en mer, pas très loin de Port-la-Nouvelle. Et Port-la-Nouvelle ne sera pas connecté. Il n'y aura pas de gare. Donc, ce qui est totalement inadmissible.
Donc, que peut faire un sénateur dans ces cas-là?
Je fais beaucoup de choses. Je me fais gronder, engueuler, mais c'est comme ça. Moi, je défends d'abord et avant tout mon territoire, et surtout quand les dossiers, les projets sont... J'y crois et sont d'avenir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé une question orale à la ministre lors des QAG le mercredi, la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher. Derrière, ça, j'ai engagé une démarche un peu de lobbying avec l'ensemble des parlementaires de la région Occitanie qui ont co-signé une tribune avec moi dénonçant ce projet-là et le fait de ne pas avoir été associé et surtout de ne pas raccorder pour la nouvelle. J'ai travaillé avec l'ensemble des opérateurs qui sont sur le port, notamment la société Quer qui travaille sur l'électrolyseur, sur les développeurs des éoliennes offshore, mais aussi les sociétés de transport d'énergie qui œuvre sur la région Occitanie et en France, et la Fédération nationale de l'hydrogène, pour que l'on puisse amener des contre-propositions au gouvernement chiffrées pour dire au président de la République, écoutez, voilà, vous avez la possibilité de faire une halte à Port-la-Nouvelle, de connecter l'ensemble de l'écosystème de production d'énergie d'hydrogène vert de la région Occitanie à ce grand tuyau européen à partir de Port-la-Nouvelle. Donc l'idée, c'est de, nous ce que l'on propose, hein, c'est de construire un tuyau de Barcelone à Port-la-Nouvelle en offshore, ça permet d'éviter les Pyrénées, et ensuite repartir en souterrain, terrestre, jusqu'à Marseille. Du coup, on aurait cette interconnexion, on pourrait évacuer notre surplus d'hydrogène, et on pourrait aussi avoir accès à un hydrogène au tuyau international, avec des tarifs d'hydrogène beaucoup plus bas, qui permettraient à notre industrie notamment les cimenteries, briqueteries, Airbus, de bénéficier d'un hydrogène aussi compétitif pour pouvoir développer leur activité.
Voilà.
C'est une interconnexion.
Et on en est là aujourd'hui dans le projet.
On en est là, on continue à faire du lobbying avec l'ensemble des acteurs, y compris les entreprises, pour obtenir gain de cause. C'est pas gagné.
C'est pas gagné.
Mais il faut savoir que c'est un projet pour les 50 prochaines années.
Oui, probablement. On marque une seconde pause, Sébastien Plat. On se retrouve pour parler un petit peu du Parti Socialiste aussi, puisque vous en êtes membre. À tout de suite.